13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, je vous le disais, c'est la défiance des habitants de Rouen qui n'a cessé de monter après l'incendie de Lubrizol. Gros plan avec les envoyés spéciaux d'Europe 1 pour comprendre ce qui a provoqué cette colère. Le sentiment d'abandon malgré la multiplication des prises de parole officielles. Nous verrons aussi comment les habitants s'organisent pour contrer les fausses informations. Dans Tout Terrain, nous reviendrons sur la marche de la colère des policiers mercredi dans les rues de Paris. Salomé Legrand a rencontré des hommes et des femmes qui ont exprimé leur mal-être lors de cette manifestation inédite depuis 20 ans. Nous irons en Espagne et nous verrons avec Henri de Laguérie que l'ombre de Franco plane toujours alors que la justice espagnole a dit oui à son exhumation. Et puis pour terminer Tout Terrain, l'or d'Autriche nous emmène en balade au cœur du parc du château de Versailles à la découverte des arbres qui ont plus de 400 ans avec un guide formidable, le jardinier en chef Alain Baraton. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer Tout Terrain, gros plan sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. C'était il y a 10 jours maintenant, et vous l'avez entendu sur Europe 1, la défiance des habitants vis-à-vis des pouvoirs publics n'a cessé de grandir au fil des jours, et cela malgré la multiplication des prises de parole officielles, ministres, premiers ministres, préfets, qui tiennent une conférence de presse chaque jour. Et ce matin dans le Figaro, le patron du groupe industriel qui dit qu'il n'y aura pas de conséquences pour la santé. Plusieurs reporters d'Europe 1 se sont relayés à Rouen depuis le jeudi 26 septembre avec 2 délocalisations de l'antenne mardi et mercredi. Et première arrivée sur place il y a 10 jours, c'était Justin Morin.
L'odeur de diesel est toujours là et dans les rues de Rouen, on croise des personnes avec des masques blancs ou qui se recouvrent le visage d'une écharpe. On ne sait jamais, expliquent ces habitants inquiets. De la même manière, la suie noire retrouvée dans les jardins sur les 22 km de trajet du nuage noir n'a rien d'alarmant, insistent les autorités. Mais toujours, ce « on ne sait jamais » qui fait que Christine ne peut s'empêcher de se poser des questions quand elle sort sur sa terrasse.
Là, au niveau de la tonnelle, y a de la suie qui coule. La piscine, comme vous voyez, elle est toute noire. Vous voyez, on en a plein les doigts. On a promené le chien qui avait les pattes toutes noires dans la pelouse.
Ça ressemble pas vraiment à de la suie, en fait.
On ne sait pas trop ce que c'est.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour Fabienne.
Voilà pour le reportage diffusé le lendemain de l'incendie. Vous êtes resté combien de jours sur place?
Alors,
finalement,
je suis arrivé jeudi midi, donc le jour de l'incendie, et je suis reparti lundi midi, donc je suis resté 4 jours.
Et quand vous arrivez à Rouen pour travailler, il y a un périmètre de sécurité qui a été instauré, des recommandations particulières?
Alors au départ, il y a un périmètre de sécurité de 500 mètres autour du site de l'usine Lubrizol, mais ce périmètre, il est rapidement réduit, mais on n'a pas accès, bien sûr, au site. Hein. Tous les accès sont bloqués. Mais donc moi, quand j'arrive à Rouen, je me rends compte, en fait, la première chose qui saute aux yeux, vraiment, c'est toutes ces personnes qui ont acheté des petits masques.
Et l'odeur.
Et voilà, donc il y a ces masques et à côté de ça, il y a l'odeur qui prend au nez. C'est vraiment une odeur lourde. Alors après, chacun y est plus ou moins sensible. Moi, ça a été, mais il y a des gens qui ont été pris de nausées, de vomissements et de gros maux de tête.
Alors, on va écouter 2 extraits de vos reportages qui montrent qu'en tout cas, la première préoccupation des autorités, ça a été de rassurer, j'ai presque envie de dire, à tout prix la population. On a vu la multiplication des prises de parole officielles, la levée assez vite finalement du confinement. Et du coup, parfois, on va l'entendre des messages contradictoires. D'abord, celui des pompiers.
Des analyses de ces suies ont été effectuées par les pompiers. Le commandant Chislard, leur porte-parole, continue donc de le répéter.
Non, pas d'inquiétude excessive. On est bien sûr de la fumée qui a largement été diluée dans l'atmosphère, diluée par les eaux de pluie qui est retombée ensuite. On a fait des mesures de seuil de toxicité de la fumée et ces seuils se sont avérés comme non inquiétants.
Des analyses plus fines en laboratoire sont en cours afin de rassurer le plus possible la population. On devrait connaître les premiers résultats dans la soirée.
Et puis il y a une semaine, vendredi soir, c'est la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui s'exprime.
La ville est clairement polluée. Ces suies, il faut imaginer cela comme des galettes par exemple de goudron sur les plages. C'est une usine qui produit des hydrocarbures, même s'ils ne sont pas en grande quantité, ça n'est jamais bon pour la population de toucher ce genre de produit.
Voilà pour la déclaration d'Agnès Buzyn. On a l'impression quand même, Justin, que tout le monde n'est pas raccord entre les pompiers qui vous disent que tout va bien, la ministre qui parle d'une ville clairement polluée, forcément des mots qui inquiètent. Quels sont vos interlocuteurs à ce moment-là et comment vous pouvez recouper les infos?
Mais la difficulté, c'est que nos interlocuteurs, ce sont les autorités, c'est la préfecture et on n'a pas envie de remettre en cause cette parole publique. On a envie de faire confiance au préfet et qu'il faut le dire. il y a eu vraiment une volonté d'être transparent. Ils ont répété ce mot, nous serons transparents. Il y avait 2 à 3 conférences de presse par jour où le préfet venait avec différents acteurs de la cellule de crise. Il y avait par exemple un médecin du SAMU qui venait pour expliquer qu'ils avaient reçu tant de personnes, il n'y avait pas d'augmentation significative du nombre de personnes prises aux urgences, beaucoup d'appels, mais qui ne se retranscrivaient pas forcément dans les personnes qui viennent à l'hôpital. Le préfet explique bien que tout est mis sur le site de la préfecture, parce que bon, le préfet était quand même conscient de la défiance qu'il y avait, des gens qui remettaient en question les appels au calme, en gros, que faisait la préfecture. Mais sauf que le problème, par exemple, et selon moi, c'est un des problèmes de cette communication, on s'est retrouvé, moi je suis allé voir ces relevés de produits chimiques. On ne comprend rien. Quand on est un profane, on va voir ça. C'est des noms de produits qu'on ne connaît pas, avec des mesures, des taux, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est peut-être là où, il y a un moment, il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu, oui, une volonté de transparence, mais selon moi, une mauvaise transparence. Parce que ces données, on ne peut pas les lire. Donc, il aurait peut-être fallu qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un de l'Université de Rouen, par exemple, un scientifique de l'Université de Rouen, qui vienne dire...
Qui
fasse de la pédagogie sur ces résultats. Et j'ajoute, par exemple, le terme de toxicité aiguë. Voilà, c'était le premier terme qu'on nous a dit. Le préfet a dit, il n'y a pas de toxicité aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire toxicité aiguë? Personne ne sait ce que ça veut dire toxicité aiguë. En fait, on apprend que ça veut dire que, bon, en gros, on va dehors, on respire ces produits, on ne va pas tomber par terre. Mais en fait, le problème, ce n'était pas ça. Les gens s'interrogeaient sur le long terme. Et là-dessus, il n'y avait pas de réponse. Alors, est-ce que la préfecture avait les réponses? Je ne suis pas sûr non plus qu'à ce moment-là, les mesures permettaient de dire quels sont les risques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas sûr encore qu'on ait ces résultats-là.
Alors, commence très vite aussi le nettoyage. Et là, ce qui m'a marqué dans l'un de vos reportages, c'est le côté un peu artisanal.
C'est le bruit de fond du week-end dans les jardins de la campagne du nord-est de Rouen avec celui-là. David s'y est repris à 2 fois avec du dégraissant pour enlever la couche noire de sa terrasse.
On frotte. En espérant que ça va bien partir. Mais bon, sur du bois composite, on a l'impression que ça s'imprègne. Comme c'est gras, c'est... On nous dit que c'est pas toxique, qu'il n'y a rien, mais bon, il y a quand même un dépôt, il faut se protéger pour nettoyer, etc. Donc ça ne doit pas être sans risque quand même.
Un peu plus loin, Laurence et son mari Thierry ne savent pas quoi faire d'une auge remplie d'eau noire pour leurs quelques moutons domestiques.
Sur la table, j'ai frotté à l'eau claire, comme ils ont dit, mais vous voyez, il y a encore des marques sur la table, vous voyez bien qu'il y a encore des marques de celui-là. Mon fameux bassin, là, bon, je le vide, mais bon, je ne vais pas mettre ça dans le terrain tout de suite, quoi. On va les fouiller aussi, ils étaient
fichus. On va les jeter. Voilà, le raisin, on ne le mangera pas. Les pommes, on ne les mangera pas. C'est fichu. Hein.
Et là, on entend cette problématique par rapport à l'alimentation. Ça rejoint aussi une autre population très touchée, les agriculteurs que vous avez rencontrés, Justin.
Oui, effectivement. Et depuis, ça fait 10 jours, en gros, que le lait, les œufs, toute leur production est consignée. Ils n'ont pas le droit de le vendre. Et pour les producteurs de lait, ça pose problème parce que le lait, en fait, on ne peut le garder que 2 jours. Et donc, ils produisent, ils jettent, ils ne peuvent pas garder ce lait. Donc, ça crée des problèmes. Alors, on leur a promis des indemnisations. On verra comment ça se passe.
Merci beaucoup, Justin Morin. Dans un instant, on va partir à Rouen pour rejoindre Élise Dangean. Elle assure le suivi de cet incendie pour toutes les éditions du week-end, alors que le préfet tient une conférence de presse, vous le disiez, quotidienne, pour donner des dernières informations, comme hier soir, sur des produits stockés sur un autre site à proximité de Lubrizol.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain sur Europe 1, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et avec vous, Fabienne Lemoyle, on revient bien évidemment sur l'incendie de Lubrizol.
Direction donc Rouen, 10 jours après cet incendie spectaculaire et encore beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes dans la population. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Fabienne.
Alors Élise, vous êtes de nouveau à Rouen depuis hier midi après y avoir passé le week-end dernier. Qu'est-ce qui vous a marqué déjà à une semaine de distance sur le climat qui règne en ville ?
Eh bien, c'est une atmosphère moins lourde, moins oppressante, sûrement parce que l'odeur a presque disparu finalement. En tout cas, elle est moins forte. En revanche, ce qui n'a pas disparu, c'est l'inquiétude des habitants. Hier, par exemple, une femme m'a interpellée en voyant la voiture Europe 1. Elle voulait me montrer des images du nuage, me parler de ses symptômes pendant toute la semaine. Des symptômes qui ont d'ailleurs aujourd'hui disparu. Donc, je pourrais dire que la vie commence à reprendre son cours à Rouen.
Parce que ce qui est quand même marquant, Élise, quand vous parlez effectivement de cette inquiétude qui perdure, c'est que dans vos reportages le week-end dernier, il y avait un sentiment aussi d'abandon, de ne pas avoir assez d'informations. On va écouter Virginie, professeure des écoles.
Depuis 3 jours, je ne sais pas ce que je respire. Au départ, on a été bien informés. Quand on a allumé la télé, effectivement, on ne parlait que de Rouen.
Alors, je ne parlais pas tant des médias.
Et que dès qu'on a su que M. Chirac était décédé, on a eu l'impression d'être abandonnés. Vraiment, hein. Moi, j'étais enfermée chez moi, cloîtrée, volet fermé dans le noir pour nous protéger de la fumée et tout ça. Et il n'y a plus rien eu sur Rouen dès 10h30 du matin. Et ça a été vraiment un choc.
Voilà, ce sentiment d'abandon, vous me l'avez dit Élise, vous l'avez senti à travers ce témoignage, parce qu'effectivement, dans les premières heures, les médias, radio, télé, à commencer par Europe 1, ont basculé en édition spéciale à l'annonce de la mort de Jacques Chirac. On va rappeler qu'Europe 1 a ensuite consacré cette semaine deux spéciales mardi soir avec Nathalie Lévy et mercredi matin avec Mathieu Béliard en direct des locaux de nos confrères de Paris-Normandie à Rouen. Mais vous m'avez dit aussi que les habitants ont été perturbés par des discours contradictoires en matière environnementale.
Ouais, c'est un argument que j'ai beaucoup entendu. Les gens me disaient, on nous bassine avec des discours alarmistes sur le climat, l'environnement et à juste titre. Mais quand une catastrophe survient, que la pollution est là, sous nos yeux, sous nos narines presque, on nous dit, rien de grave, circuler, il n'y a rien à voir. Ça les a beaucoup frustrés parce qu'en plus, ils voient bien dans l'actualité, par exemple, à chaque pic de pollution, pendant les phases de canicule, on met en place la circulation différenciée dans la région Hauts-de-France, en Île-de-France aussi. Et là, ils se disent, on a un nuage énorme, des odeurs complètement nauséabondes et pour nous, on ne fait rien.
Alors du coup, cette défiance qui a gagné au fil des jours, elle a même viré au complotisme, on va l'entendre.
Je suis plus qu'inquiète en fait, parce que d'une, ça sent toujours autant. On a très peu de renseignements et pour le peu qu'on nous donne, pour nous, c'est un peu des foutaises quoi. On n'y croit absolument pas.
Non, ça ne me rassure pas parce que quand je marche et que je croise des pigeons morts ou qu'on m'envoie des photos avec des poissons morts, qu'on a la gorge irritée, qu'on tousse, qu'on apprend des gens, on fait des malaises, tout ça. Moi, pour moi, c'est un mensonge de l'État, c'est juste pour ne pas faire de vagues.
Juste une précision, Élise, on est bien d'accord. Votre interlocuteur parle d'oiseaux morts. On n'a jamais fait de lien avec les nuages de pollution.
Absolument, ils sont bien morts, mais il n'y a pas de rapport entre le drame de Lubrizol et ces oiseaux. D'ailleurs, il y a aussi un communiqué de l'Agence régionale de santé qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et en fait, il n'a jamais existé.
Alors, pour couper court à ces rumeurs et répondre aux besoins d'information des Rouennais bien légitimes, il y a désormais une conférence de presse quotidienne du préfet. Vous y avez assisté encore hier soir.
Oui, chaque jour, il s'assoit autour d'une grande table avec différents conseillers qui représentent chacun l'école, la santé, le monde agricole, etc. Il fait le point sur les avancées, se répète parfois sur des points déjà évoqués. Et au milieu de toutes ces informations, qui semblent avoir peu d'importance, il distille des informations plus surprenantes. Par exemple, hier, on a appris que la préfecture ne savait toujours pas ce qui avait brûlé dans l'autre entrepôt, celui de l'usine voisine de Lubrizol. Au total, on nous dit que 9000 tonnes de produits étaient présents sur le site, mais on ne sait toujours pas ce qui est parti en fumée. On sait juste qu'il y avait des matières premières de Lubrizol, par exemple.
Merci beaucoup, Élise Dangean. On entend à travers vos témoignages la défiance qui n'a cessé de monter au fil des jours envers les pouvoirs publics. Une défiance qui s'est d'ailleurs transformée en colère. C'était lundi soir. On entend les habitants de Rouen qui crient « on veut la vérité ». C'était devant les locaux du conseil de la métropole de Rouen, où le préfet tenait une réunion. Et c'est à ce moment-là, bonjour Victor Delande,
bonjour Fabien,
que vous arrivez à Rouen.
Tout à fait.
On vient d'entendre ces habitants dans une vidéo qui a tourné en boucle. Le climat est vraiment tendu, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. En fait, quand j'arrive sur place, l'incendie date d'il y a 3 jours. Et les premiers éléments donnés aussi bien par le préfet que par les membres du gouvernement en fait, sont beaucoup trop maigres pour les Rouennais. Et j'ai encore croisé de nombreux habitants de Rouen, pas plus tard qu'avant-hier, qui sont vraiment persuadés que le gouvernement, tout simplement, en fait, leur cache la vérité.
Et c'est ce qu'on entendait dans les témoignages d'Élise il y a quelques minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ne pas sombrer dans cette psychose, des habitants ont pris les choses en main pour déconstruire justement les fake news, comme celle dont parlait Élise à l'instant. On va écouter un extrait de votre reportage.
Cette rumeur du pompier intoxiqué qui n'a pas accès à ses analyses, elle a déjà été partagée des milliers de fois sur Facebook depuis hier. Et ce n'est rien à côté de la vidéo d'un évier où l'eau qui coule est noire, plusieurs millions de partages. Grégory Simon-Klein a fondé le collectif Lubrizol pour essayer d'informer les Rouennais. Pas question de relayer ces fake news.
Nous, on a fait le collectif Lubrizol, on n'a pas fait le collectif Psychose. On ne sait déjà pas ce qu'on respire. Alors si en plus on va alerter les gens en disant « Attention, arrêtez de boire de l'eau du robinet, arrêtez de vous laver », je ne sais pas jusqu'où on peut aller à ce niveau-là.
Il passe plus de 4 heures par jour à trier les rumeurs, des centaines de publications qu'il doit évaluer. Il en supprime beaucoup. Lui et les 12 autres administrateurs de la page font très attention à ce qu'ils relaient.
Voilà pour un extrait de votre reportage qui est passé jeudi matin sur Europe 1. Comment travaille ce groupe en fait, Victor ?
Alors ce qu'il faut bien comprendre, Fabienne, c'est qu'à la base, Grégory Simon-Klein, qu'on vient d'entendre dans le reportage, a lancé la page Facebook juste après l'incendie, mais pour échanger des informations avec les Rouennais, dans quel quartier ça sent particulièrement mauvais, qui a retrouvé des traces de fibro-ciment chez lui, qui connaît un masque efficace contre les odeurs tenaces, plein d'informations vraiment très pratiques. Et rapidement, sur ce même groupe est apparu un flot ininterrompu de fausses informations Alors au début, quand il n'y avait encore que 1000 membres dans le collectif Lubrizol, tous les posts, c'est-à-dire les publications, étaient mis sur la page sans vérification aucune. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 membres, rendez-vous compte. Vous imaginez le nombre de personnes qui publient des choses au quotidien. Les administrateurs ont donc rapidement corrigé le tir. Ils se sont réunis pour trouver une solution, tout simplement. Et désormais, ils doivent valider n'importe quelle publication avant qu'elle ne soit visible aux autres membres du groupe. Et je peux vous dire qu'ils suppriment à tour de clic de très nombreuses informations pour le moins douteuses. Alors à chaque fois, c'est vraiment des visuels sans date, presque toujours complotistes, presque toujours angoissants et qui surtout n'apportent aucune information. Il n'est pas question pour eux de virer à la psychose collective alors même que la population rouennaise manque d'informations.
Il y a aussi ceux qui accumulent les preuves en attendant d'en savoir plus sur les dangers auxquels ils ont pu être exposés avec le passage du nuage. On écoute un extrait d'un autre de vos reportages.
Ça, j'ai retrouvé dans mon jardin. Ah, on ne sait pas ce que c'est. On tripote ça
à
main nue.
Marie habite dans un quartier cossu à la sortie de Rouen. Le nuage de fumée de l'usine Lubrizol est passé juste au-dessus de sa maison. À l'extérieur, sur sa pelouse où jouent ses quatre enfants, elle a retrouvé des morceaux de fibrociment, de tôle calcinée. Elle a appelé la préfecture qui lui a conseillé de faire venir une entreprise de désamiantage. Choquée, elle a préféré contacter un huissier.
Si rien n'est prouvé, bah nous au moins on a conservé des choses et en cas de problème plus tard, au moins on sera avec ce qu'il faut.
Là c'est vraiment étonnant. Petite anecdote au passage Fabienne, j'ai connu l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en tant que citoyen. C'était le 21 septembre 2001 l'explosion de l'usine AZF, il y a presque 20 ans donc. Il n'y avait pas du tout la même conscience écologique dans l'opinion publique et les gens ont été pris de court finalement, pas assez bien organisés. Et l'immense procès avait laissé un goût d'inachevé pour de nombreux Toulousains. 20 ans plus tard, c'est l'extrême inverse pour l'incendie de l'usine Lubrizol. Quelques jours seulement après la catastrophe, beaucoup de Rouennais ont donc amassé des preuves, pris des tonnes de photos, le moindre bout de fibrociment, photographié des dizaines de fois. Certains, comme on vient de l'entendre, ont donc fait appel à des huissiers. Ils vont faire analyser toutes ces preuves. Il y a eu donc déjà de nombreuses plaintes qui ont été déposées.
Merci beaucoup Victor Delande. Et donc parmi les derniers développements, il y a cette déclaration du PDG du groupe industriel Lubrizol qui dit ce matin dans le Figaro qu'il n'y aura pas de conséquences pour la santé. Et la nomination par la justice d'un expert spécialiste en chimie et en produits industriels pour procéder justement à un constat des conséquences environnementales de cet incendie, alors que deux communes de l'agglomération de Rouen ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume.
Europe 1.
On poursuit tout terrain avec cette marche de la colère des policiers. C'était mercredi dans les rues de Paris, du jamais vu depuis 20 ans pour exprimer leur mal-être.
Comme chaque samedi de 13h à 14h, c'est Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et vous écoutez Fabienne Lemoelle.
Et si le scénario d'une attaque terroriste à la préfecture de police de Paris se confirme, cela ajoutera sûrement au malaise qui touche les policiers depuis des mois. Ce drame est en effet intervenu au lendemain d'une marche de la colère. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Du service police-justice d'Europe 1. Avant de revenir sur cette manifestation que vous avez suivie mercredi dans les rues de Paris, une manifestation impressionnante car, comme vous me l'avez dit, je crois que c'est du jamais vu depuis 20 ans.
22 000 policiers, quasiment 1 sur 7.
Alors, on va revenir sur un témoignage d'un policier que vous aviez rencontré en amont de cette mobilisation. Déjà, comment êtes-vous entré en contact avec lui ?
Par le réseau. J'avais cette demande d'Europe 1 de trouver un témoignage d'un policier non syndiqué qui raconterait vraiment son vécu à titre personnel. J'ai envoyé un message à plusieurs policiers qui ont eux-mêmes fait passer autour d'eux jusqu'à trouver Jérémy. C'est un nom d'emprunt d'une quarantaine d'années, policier depuis près de 20 ans, à chaque fois sur la voie publique dans des services type BAC, etc. En région parisienne, la personne qui m'a orientée vers lui m'a dit on aurait imaginé 1000 autres policiers tombés avant lui. Donc c'est un policier qui sort tout juste d'un long arrêt maladie de plusieurs mois pour burn-out et qui est donc a accepté de me parler.
Et on va écouter un premier extrait de ce témoignage où il vous explique justement comment il a sombré dans ce burn-out.
C'est comme le loto, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. On porte tout sur les épaules, on ne sort jamais rien parce qu'on a une carapace, on se sent fort, on se sent costaud. Mais au bout d'un moment, quand la carapace elle se fissure, c'est peut-être déjà trop tard pour certains.
Vous vous souvenez de quand est-ce que votre carapace a commencé à se fissurer ?
Je me souviens, oui. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, donc qui a fait que je me suis senti vraiment rabaissé. Donc j'ai expliqué un peu mon mal-être. La hiérarchie a continué à enfoncer le couteau dans la plaie en faisant des reproches de plus en plus nombreux, etc., sur des choses qui n'étaient pas forcément fondées, quoi. Après, c'est une longue descente aux enfers, parce qu'on se sent, diminué, on se remet en question, justement. Là commencent à arriver les insomnies. On cogite jour et nuit. Pour ma part, c'était... Enfin, jusqu'à maintenant, c'est encore compliqué, mais on va dire 2 heures de sommeil par nuit. Donc, j'ai sombré en 2-3 mois, quoi. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi, donc je pensais pas que c'était ça, en fait. Ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux, c'est le fait que je me suis un petit peu rapproché d'autres collègues qui, eux, ont vécu ça, qui m'ont dit que voilà, il fallait que je consulte au plus vite parce que pour certains, c'était trop tard et qu'après, on pouvait avoir justement des tendances suicidaires et passer à l'acte comme on fait une cinquantaine de nos collègues.
Dans quel état vous étiez ?
On n'a plus envie de rien, on n'a pas envie d'aller se promener avec ses enfants, on n'a pas envie de jouer avec ses enfants, on n'a envie de rien. Un dégoût de tout, un sentiment de... Enfin, en fait, on se sent rabaissé, on a l'impression d'être bon à rien. C'est une fatigue constante, c'est des maux de tête, des maux de ventre, des angoisses permanentes. C'est des bouffées de chaleur qui vous prennent dans la journée, vous ne savez pas pourquoi.
On entend à l'instant Jérémy qui vous décrit des symptômes de ce... burn-out à venir. Et je crois que c'est un élément qui lui tenait particulièrement à cœur d'exprimer.
Et oui, parce que quitte à témoigner, il aimerait qu'éventuellement ça puisse servir à d'autres policiers. Il l'a dit, j'aurais jamais pensé que c'était moi. C'est l'aide extérieure de quelqu'un lui décrivant ses symptômes qui lui permettent de comprendre et peut-être presque de se faire arrêter à temps. Donc, voilà, dans son envie de témoigner, de m'ouvrir la porte, il y avait aussi celui de pouvoir faire passer le message à d'autres collègues.
Car dans son témoignage, et on va écouter un deuxième extrait, on sent aussi combien il dénonce le manque de prise en compte de sa hiérarchie.
Je pense que ouais, les collègues, effectivement, peuvent passer au suicide et y penser très largement. Parce qu'en fait, un policier, maintenant, n'est plus reconnu pour ce qu'il fait. Donc on va toujours nous reprendre sur tout ce qu'on fait. On est toujours dans l'œil du cyclone. Les hautes sphères n'ont plus confiance du tout en leurs policiers, alors qu'on leur demande de plus en plus de choses. Avec beaucoup moins de moyens. On va être 15 fonctionnaires et on aura une voiture, voire deux voitures quand on a de la chance. C'est par exemple une journée de travail qui dure 8 heures sur 8 heures. Avant, dans le temps, on avait 6-7 heures facilement de patrouille. Maintenant, dès qu'on fait une interpellation ou quoi que ce soit, on a facilement une heure, voire deux heures de paperasse derrière. Et les statistiques. Pour une personne interpellée, c'est 3-4 tableaux qu'il faut remplir différents.
Vous qui êtes passé par là, le burn-out au moins, qu'est-ce que peut mettre en place la police aujourd'hui pour enrayer ce cercle ?
Déjà, essayer de faire comprendre à notre hiérarchie que quand un effectif va mal, au lieu de lui enfoncer la tête dans l'eau, et ben on essaie de le sortir. C'est toujours en fait aux fonctionnaires d'aller vers le psychiatre. Et non pas en fait, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'y aller, qui ne se sentent pas à même d'y aller. Et la hiérarchie n'a pas encore le réflexe de les orienter vers là, de discuter avec eux, de les orienter justement vers ces spécialistes. C'est là où est le problème, c'est qu'il faudra en discuter avant que ça soit trop tard.
Voilà, donc pour le témoignage de Jérémy à votre micro, Salomé Legrand. Vous restez avec nous, Salomé. Vous nous direz dans un instant si ce témoignage est emblématique du mal-être qui traverse cette profession, car vous avez suivi mercredi le cortège de la marche de la colère des policiers.
Il est 13h32, la suite de Tout Terrain, notre émission Grand Reportage avec toujours la marche de la colère des policiers, Fabienne Lemoelle.
22 000 personnes en effet dans les rues de Paris, c'était mercredi, donc la veille du drame qui a depuis endeuillé la profession. Et bien évidemment, les policiers que vous allez entendre ne parlent pas de cette attaque au couteau. Avec moi, Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. On entendait à l'instant Jérémy, un policier qui a sombré dans le burn-out. Est-ce que ce témoignage, Salomé, est emblématique du mal-être qui touche cette profession ? En gros, est-ce que ça touche tous les niveaux de la hiérarchie ou juste la base ?
Alors en tout cas, dans les personnes et dans les policiers qui se sont suicidés cette année, il y a aussi des cadres, des officiers. Donc on ne peut pas dire que c'est simplement la base. Effectivement, c'est un mal-être qui transcende tout. Après, évidemment, dans un suicide, il y a aussi des données personnelles. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que le burn-out, c'est 100% professionnel et que la dépression, ça peut inclure des éléments personnels. Mais ce mal-être est partagé par de nombreux policiers qui l'ont d'ailleurs beaucoup exprimé dans cette manifestation. Il y avait dans les rangs de cette manifestation beaucoup de policiers qui venaient pour la première fois dans la rue.
Ça vous a marqué.
Voilà, il le dit. En fait, c'était très spontanément. Il disait, c'est bien la première fois que je manifeste en 30 ans de boîte, 20 ans de boîte, 15 ans de boîte, mais pas depuis 2-3 ans, avec un vrai écœurement et un sentiment de se dire c'est un métier qu'on aime, mais quand on en est à devoir le défendre dans la rue, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y en avait beaucoup qui étaient là par solidarité, justement, pour dire les suicides, ça suffit, on ne peut pas fermer les yeux. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que même ceux qui se disent préservés, qui ne voulaient au début pas faire d'interview en disant « non, mais moi, je ne peux pas me plaindre vraiment, personnellement, je ne suis pas si mal loti », en réalité, il ne faut pas discuter très longtemps avec eux pour qu'ils pointent des dysfonctionnements. C'était par exemple le cas de Thibault en police judiciaire à Paris.
On a un logiciel de rédaction des procès-verbaux. et il n'est même pas adapté à Windows 10. Donc nous, on doit s'adapter avec des copier-coller, avec les mises à jour. Entre midi et 14h, par exemple, le mercredi, on peut pas travailler.
Comment ça ?
Ben, le logiciel plante, ne fonctionne pas. Il est en mise à jour et imaginons si vous déposez plainte entre midi et 14h, on fait sur Word. Mais ça n'a rien d'officiel, donc voilà, c'est dingue, c'est malheureux. Hein.
Voilà, vous avez remonté comme ça le cortège, hein, vous m'avez dit. D'ailleurs, vous avez rencontré plusieurs policiers avec d'autres problématiques.
Voilà, il y a le matériel, là, comme l'a exprimé Thibault. Et puis, il y a tout le reste, l'impact sur la vie de famille. Les rappels le week-end sur les gilets jaunes, mais les horaires qui changent tout le temps. On vous appelle la veille en disant « demain, tu commences à 6h ». Il y a quelque chose qui revenait énormément aussi, c'était l'image dans la société. Là encore, exacerbé avec les gilets jaunes, en disant « on passe pour des violents », alors que nous, on a ce métier vocation pour le service public, ça revenait énormément. Il y avait ce CRS qui rentre avec son arme depuis un an parce qu'il se sent menacé. On va vous suivre jusqu'à chez vous, les policiers, sur les réseaux sociaux. Il a même demandé à sa fille de ne plus donner le métier de son père pour pas qu'elle soit ennuyée au lycée comme c'est arrivé à un de ses collègues. Il y a donc ce manque de reconnaissance avec, derrière, en filigrane, les mauvais objectifs et les mauvais critères de réussite, c'est ce que m'exprime Thierry.
Nous, ce qu'on veut, c'est faire notre travail de policier avec discernement, qu'on nous laisse la possibilité de revenir peut-être certains jours sans interpellation, sans avoir à devoir rendre compte derrière. Il vaut mieux quand même démanteler un trafic de stupéfiants, même dans un quartier, un petit deal qui se passe, qui pourrit le quartier complètement, plutôt que d'interpeller les trois acheteurs qui seront venus acheter leur dope. Sauf que trois interpellations, elles se font tout de suite, rapidement, trois bâtons. Alors que quand vous voulez démanteler le petit réseau même du quartier, je veux dire, il vous faut plusieurs jours. Sauf que l'évaluation, en tout cas, elle n'est pas suffisamment axée sur ces domaines-là.
Et du coup, la pression hiérarchique, c'est vraiment beaucoup, beaucoup revenu, au moins au début du cortège où il y avait les gardiens et les brigadiers. Puis quand on remontait le cortège, du coup, il y avait la hiérarchie en question. Par exemple, François, commandant de police.
Nous sommes, nous, les officiers de police, pris entre le marteau et l'enclume, pris entre notre propre hiérarchie, les collègues gardiens et gradés, à qui nous sommes parfois dans l'incapacité d'expliquer le bien fondé des missions, dans quelle démarche s'inscrit-on et pour quel résultat au profit de la population.
Ça fait plus sens aujourd'hui ?
Plus sens du tout. On a besoin de savoir à quoi sert aujourd'hui le travail de tous les policiers et on se le demande et c'est ce qui crée le malaise.
Est-ce que vous avez un exemple là, ces derniers mois de consignes que vous n'avez pas su expliquer ?
Il y en a quelques-unes, mais notamment dans le cadre de la PSQ par exemple, où on a des instructions complètement contradictoires. C'est un peu de la poudre aux yeux, voilà.
Et la PSQ, un police de sécurité du quotidien, une des dernières réformes du ministère. Encore au-dessus des officiers, les commissaires, avec Pierrick Agostini, secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de la police nationale.
Un des dérapages qui a pu jeter le trouble dans l'institution, c'est qu'on est parti à fonctionner comme une entreprise privée alors qu'on est une institution publique. Il faut en sortir, il faut trouver des solutions.
Et donc, ce qui ressort de cette manifestation historique, il n'y a jamais eu de manifestation unitaire comme ça depuis 20 ans, avec les commissaires jusqu'aux brigadiers, tous les syndicats confondus. C'est vraiment ce sens de la mission. C'est d'autant plus vrai que notamment le niveau scolaire des policiers augmente et il y a un vrai questionnement sur le contenu de ce qu'ils font et comment c'est perçu par la population. Donc ce que j'ai perçu moi de cette manifestation, ce n'était pas tant les moyens, de l'argent, des budgets, que encore plus la réflexion sur que fait la police aujourd'hui, dans quelle société.
Merci beaucoup Salomé Legrand, on l'a dit, pour cette manifestation totalement inédite. Merci Salomé.
Merci Fabienne.
Europe 1.
Et direction dans un instant l'Espagne, où la justice a donné son feu vert pour l'exhumation du corps de Franco. Et vous allez l'entendre, l'ombre du Gaudillo plane toujours sur la société espagnole.
Tout terrain se poursuit jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Fabienne Lemoyle. Et maintenant, à 13h41, eh bien on part en Espagne.
Oui, où la Cour suprême a donc donné son feu vert à l'exhumation de Franco de son mausolée près de Madrid. Une décision pour le plus grand soulagement de Libertad Rigo, fils d'exilé républicain qui s'était réfugié en France.
C'est une excellente nouvelle. On attendait ça depuis 1975. C'est-à-dire depuis 44 ans. Bon, on ne verra plus les rassemblements des fascistes, des nostalgiques du franquisme sur la tombe dans le Valle de los Caídos. C'est ça, c'est aussi une perspective réjouissante.
Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Fabienne.
Correspondant d'Europe 1 en Espagne, ça paraît vraiment à peine croyable une telle décision 44 ans après la mort de Franco, comme si l'ombre du Gaudillo planait toujours sur le pays et que les Espagnols n'avaient finalement pas si j'ose dire, solder cette période malgré la transition démocratique.
Ben oui, effectivement, mais si vous voulez, Fabienne, c'est un sujet qui reste encore tabou. Alors bien sûr, cette transition après la mort de Franco a fonctionné. L'Espagne est devenue une démocratie, elle a su mettre de côté toutes ses divisions. Les prisonniers du régime ont tous été amnistiés à l'époque et les dirigeants franquistes n'ont pas été poursuivis par la justice. Le problème, c'est que finalement, on a mis un peu tout sous le tapis. Il n'y a pas eu de défranquisation de l'Espagne, pas de procès, ne serait-ce que symbolique. Une partie des cadres du régime se sont recyclés d'ailleurs à l'époque dans l'administration. Et aujourd'hui encore, eh bien, ce sujet ne fait pas consensus. La droite n'a jamais condamné officiellement le franquisme. Et preuve que ça reste compliqué. Aucune journée de commémoration ne rend hommage aux victimes de la dictature en Espagne. C'est ce qui fait dire à Enrique Urraca, dont les parents ont eux aussi dû fuir la dictature, que Franco est finalement encore vivant.
Oui, ça me blesse. Ça blesse, je dirais, ma conscience. On ne comprendrait pas en Allemagne ou en Italie un mausolée au nom de Hitler ou Mussolini. Et en Espagne, malheureusement, cela existe. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais voir disparaître.
Vous avez l'impression que le fantôme de Franco plane encore au-dessus de l'Espagne ?
Tout à fait, tout à fait. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui écrivait un article qui intitulait « Franco n'est pas mort ». Et je crois que c'est une réalité.
Voilà, et d'ailleurs, la famille de Franco continue à revendiquer l'héritage de la dictature. Depuis plus d'un an, les petits-enfants bataillent contre cette exhumation. J'avais rencontré chez lui l'un des petits-fils du dictateur. Il s'appelle Francis Franco et c'est l'une des deux seules interviews qu'il a données depuis plus d'un an à un média.
Ils veulent humilier mon grand-père. C'est un écran de fumée, une manœuvre pour cacher tous les problèmes dont souffre ce pays. Personne ne se souciait de savoir où est-ce qu'il était enterré. Les gens qui ont vécu la guerre civile et ceux qui ont connu son régime sont tous morts.
On entend le petit-fils de Franco à l'instant qui dit que finalement tout ça c'est du passé, tout le monde est mort dans cette histoire. Mais à travers les témoignages, et on va les entendre, que vous avez recueillis, on voit que cette mémoire est toujours très présente dans les familles avec des blessures qui sont loin d'être refermées. On va d'abord écouter Carlos Valiero, il est syndicaliste, c'est un ancien prisonnier politique et il raconte comment certains cherchent encore le corps de leurs proches.
Les blessures du passé ne sont pas fermées, hein, sont ouvertes. Les antifascistes, les prisonniers politiques, les victimes cherchent encore, par exemple, les corps de ses parents qui ont été fusillés.
Autre témoignage, et on l'entendait au début, Henri, c'est ce fils d'un exilé républicain, Liébert Tarrago.
On ne verra plus les rassemblements des fascistes, des nostalgiques du franquisme sur la tombe dans le Valle de los Caídos. C'est aussi une perspective réjouissante. Mais bon, pour autant, tout n'est pas refermé. L'État espagnol a encore des dettes envers les familles des républicains victimes de la guerre civile et victimes de la répression pendant toute la dictature.
On entend ces témoignages, Henri de Laguérie, que vous avez recueillis. C'est quoi ces dettes dont parle le dernier témoin ?
Finalement, les familles de victimes attendent une réparation morale. Et bien sûr, il n'y aura pas de réparation en termes d'argent, mais une reconnaissance officielle des crimes du franquisme. Voilà ce qu'ils réclament. C'est vrai, un travail a commencé à être fait grâce à Zapatero. C'était dans les années 2000. Des fouilles ont lieu pour retrouver les restes des disparus. Mais vous savez, il y a des fosses communes dans toute l'Espagne. Cela prend beaucoup de temps et cette compétence d'ouvrir les fosses communes a été donnée aux régions. Or, certaines régions, celles qui sont gouvernées par la droite, refusent de le faire ou donnent très très peu d'argent pour le faire.
Donc on revient à ce que vous disiez au début de cette séquence, un sujet encore très tabou en Espagne. On entend que c'est encore très vif chez les descendants de Franco, comme dans les familles qui ont perdu leurs proches. Mais est-ce que le reste de la société espagnole se sent concerné ?
Écoutez, on n'en parle pas vraiment. C'est un silence un peu pesant parce que la guerre civile et la dictature, par exemple, sont très peu enseignés à l'école. Et puis la société, voilà, elle reste divisée. 80 ans après cette guerre civile, une partie de l'Espagne, celle de gauche, disons, soutient cette exhumation. L'autre partie, considère que ça ne fait que rouvrir les blessures du passé. On le comprend, les traces de la guerre civile restent encore profondes ici.
Ça rouvre les blessures du passé. Vous le dites, en plus, ce feu vert intervient en pleine campagne électorale.
Oui, le gouvernement espère exhumer Franco avant les élections du 10 novembre prochain et aux nouvelles élections générales. C'était l'un des engagements forts de Pedro Sanchez, un geste évidemment pour son électorat et aussi un bon point pour l'image internationale de l'Espagne. Beaucoup de médias à l'étranger en ont parlé, le New York Times notamment. Pedro Sanchez, il a salué à l'ONU une grande victoire de la démocratie espagnole. Mais pour vous donner une idée à quel point ça ne fait pas consensus, la droite, lui reproche un geste électoral. Albert Rivera, par exemple, le leader des libéraux de Ciudadanos, le parti allié d'En Marche au Parlement européen, a notamment dit « Sanchez joue depuis un an avec les os de Franco pour nous diviser entre rouge et bleu ». Vous comprenez, le sujet fait encore beaucoup, beaucoup polémique ici.
Il va se passer quoi maintenant? Est-ce que c'est vraiment la fin de la procédure?
Écoutez, a priori, on approche de la fin. Ça fait plus d'un an que ça dure. On évoque une exhumation donc autour du 24 octobre. Ça se fera dans l'intimité, loin des caméras. La famille de Franco pourra être présente. La tombe sera transférée dans un cimetière municipal près de Madrid, là où repose déjà son épouse. Mais la famille n'a pas dit son dernier mot. Elle veut présenter encore un recours devant le tribunal constitutionnel, puis elle ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui pourrait encore retarder cette exhumation.
Et qu'est-ce que va devenir ce lieu qui était considéré comme le mausolée de Franco ?
Eh bien, écoutez, ce lieu, pour l'instant, il va rester là où il est. Il y a des milliers d'autres tombes d'anciens républicains espagnols, mais aussi de victimes de l'autre camp pendant la guerre civile. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui fait débat et certains aimeraient carrément voir ce lieu disparaître. C'est finalement un lieu bien embarrassant pour l'Espagne.
Merci beaucoup Henri de Laguérie et on verra effectivement si on est vraiment au bout de la procédure ou si la famille de Franco, comme elle l'a dit, va épuiser des recours jusqu'au bout. Merci à vous Henri.
Merci.
Europe 1.
Pour terminer, dans un instant, un moment magique, plongé au cœur du parc du château de Versailles, à la découverte des arbres admirables depuis plus de 400 ans, avec un guide de rêve, le jardinier en chef Alain Baraton.
Il est 13h50, on vous retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite et fin de Tout Terrain.
Et pour terminer Tout Terrain, je vous emmène en balade en plein cœur du parc du château de Versailles.
Quand on voit cet arbre-là, on est incapable de savoir combien de temps peut-il encore vivre.
Juste sous ses fenêtres, au Petit Trianon, la reine Marie-Antoinette avait fait planter un sophora du Japon, aux dimensions aujourd'hui spectaculaires.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour.
On comprend en vous écoutant que Versailles est bien loin de se résumer à son château, qu'il y a un superbe parc de près de 800 hectares, vous m'avez dit, et qu'on peut désormais s'y promener intelligemment pour découvrir des arbres. Et on va l'entendre, admirable grâce à un parcours qui a été spécialement conçu par les jardiniers.
Oui, c'est ça. C'est une promenade que le château de Versailles vient de créer et qui permet de traverser l'histoire à travers les arbres les plus admirables du domaine. Alors, en téléchargeant sur votre téléphone portable l'application gratuite du château de Versailles, vous pouvez désormais vous laisser guider par le commentaire passionné d'Alain Baraton, le jardinier en chef du domaine de Versailles. Il raconte l'histoire de quelques-uns des 350 000 arbres du domaine. Parmi eux, il y a des arbres admirables par leur beauté, leur dimension, leur rareté et leur histoire, bien sûr. S'ils pouvaient parler, ils auraient sans doute beaucoup de choses à raconter, ces arbres. Ceux qui ont une histoire, un passé. Vous traversez, par exemple, un bosquet et vous tombez sur un chêne qui a connu Louis XIV, un autre Napoléon. Exemple avec celui-ci, au pied du Petit Trianon. Juste sous ses fenêtres, la reine Marie-Antoinette avait fait planter un sophora du Japon aux dimensions aujourd'hui spectaculaires. C'est ce que raconte Alain Baraton, le jardinier en chef du domaine de Versailles.
Elle voulait ce sophora, il a même été mis sur un petit monticule pour qu'elle puisse le voir depuis sa chambre. Oui, ce sont des arbres, il faut quand même avoir conscience que la botanique au XVIIIe siècle est une science reconnue et que cet arbre, pour Marie-Antoinette, ce n'est pas seulement un sophora du Japon, c'est un arbre qui vient d'un pays qu'elle ne connaîtra jamais, c'est le rêve à l'état brut. Cet arbre, finalement, qui est né, il est né en Asie, il a traversé les océans à bord d'un navire, certainement sous forme de petites graines, il est arrivé dans les pépinières de Versailles, il a germé, 4 ans plus tard, il devient un arbuste, un petit arbre plutôt de qualité. Il est installé sous les fenêtres de la reine Marie-Antoinette à Trianon. Et regardez quelques centaines d'années plus tard à quoi il ressemble. Il a un petit côté japonisant, il est sublime. C'est de l'émotion, je trouve. Comment cet arbre est-il capable de produire autant de feuilles malgré le peu de bois qu'il produit encore? Quand on voit cet arbre-là, on est incapable de savoir combien de temps peut-il encore vivre.
Et dans les années 50, dit Alain Baraton, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Le tronc de cet arbre, par exemple, avait été rempli de ciment. Vous voyez, il a été vidé, bien sûr, depuis. Et puis aujourd'hui, on en prend énormément soin. En tout cas, les jardiniers, ils nettoient, ils entretiennent les branches, notamment pour qu'elles ne deviennent pas trop lourdes et puis qu'elles finissent par casser, justement.
Je vous sens vraiment sous le charme. Et quel guide, effectivement, Alain Baraton, pour vous faire découvrir ces merveilles. J'ai fermé les yeux, je vous entends fouler, effectivement, cette forêt. Le crépitement presque des feuilles sous vos pieds. Il faut dire qu'à chaque pas, c'est une découverte magique. Hein.
Oui, c'est ça. Vous tournez la tête, vous tombez sur le tronc d'un arbre qui a plus de 300 ans, où c'est peut-être même adossé l'écrivain Jean de La Fontaine, par exemple, qui aimait ici se promener, prendre des notes. Il disait que les arbres plantés ici vivraient 1000 ans et plus, vous voyez. Et alors, c'est vrai que c'est assez fascinant. Vous avez, par exemple, ce séquoia, l'arbre le plus haut du domaine de Versailles, qui lui aussi réserve des surprises.
Il mesure 38 mètres de hauteur, c'est un gros pépère comme vous pouvez le constater. Et cet arbre est également un arbre qui attire tous les sportifs de la région, et en particulier les amateurs de boxe. Parce qu'il a une écorce qui est incroyable, qui est spongieuse. Et regardez, je m'approche, et si je veux m'entraîner à la boxe, bah je peux taper dessus, et je ne me fais pas mal. C'est assez étonnant. Ce qui est extraordinaire dans cette promenade avec les arbres admirables, c'est que le public va découvrir des arbres qu'il ne soupçonnait pas, va apprendre leur histoire, mais va également parcourir le monde grâce aux applications sur les téléphones mobiles. Ils vont ainsi pouvoir aller en Californie, connaître l'origine de ce végétal, apprendre qui était Sequoia, qui était un grand chef indien inventeur de l'alphabet Cherokee, et apprendre quantité de choses sur Versailles. Versailles ne fut pas seulement un château, ce fut également une terre d'expérimentation pour de grands savants. Là où vous êtes, les plus grands sont venus, Bernard de Jussieu, venez botaniser ici même. Donc cette application, ce parcours arbre admirable, c'est plus qu'un simple parcours, c'est véritablement une déambulation sur 3 siècles de grande et de petite histoire.
Moi je retiens ce gros pépère, comme dit Alain Baraton, qui les aime, ces arbres, ça sent. Et puis vous me le disiez, hein, dans l'appli, en fait on entend Alain Baraton qui nous guide comme ça, hein, exactement oui. comme il le fait avec vous en ce moment. Alors on se souvient de la terrible tempête de 1999 qui avait dévasté une partie du parc, mais si je comprends bien, certains arbres ont quand même résisté.
Oui, absolument. Alors la tempête a fait des dégâts, bien sûr. 18 000 arbres du domaine ont été détruits ou mutilés, mais certains arbres qui portaient une grande histoire ont résisté parce que parfois ils étaient suffisamment solides ou qu'ils ont été protégés du vent, notamment parce qu'ils étaient situés à côté du château ou du petit Trianon, au pied du château de Versailles justement. Vous entrez dans l'orangerie, on est attiré très vite par des parfums d'agrumes, de pamplemousse, d'orange, de citron. Et ici encore, on tombe sur un spécimen unique qui est là depuis le 19e siècle, un palmier à 2 têtes, explique Éric Kenéa, jardinier.
C'est un palmier particulier puisqu'il est à double tête et on en voit très 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 rarement. Et parce qu'il est rare, ben on l'aime quoi. Moi ça me plaît l'idée d'inviter les gens à se poser ou d'organiser un itinéraire de visite un petit peu différemment et peut-être discuter, peut-être pourquoi pas botanique ou juste le plaisir de voir de beaux sujets et peut-être faire un lien avec une histoire. Il ne faut pas oublier tout ce que nos prédécesseurs, les jardiniers, ce qu'ils ont fait. Ils ont mis de la passion aussi pour entretenir ces végétaux. C'est un patrimoine végétal et nous, on est là pour entretenir, valoriser puis transmettre à tout le monde. C'est à tout le monde, en fait.
Et ce qui est incroyable, il dit transmettre à tout le monde peut découvrir ça gratuitement, en tout
Absolument.
Cas une partie de la semaine.
Oui,
hein.
Les arbres qui sont dans le parc, donc dans le domaine, sont en accès gratuit tout le temps. Et concernant les arbres qui sont dans les jardins, donc les bosquets, l'orangerie, ils sont gratuits le lundi, le mercredi et le jeudi jusqu'au 30 octobre. Et après le 30 octobre, ce sera gratuit partout, 7 jours sur 7.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cette formidable promenade. Voilà, ça y est, on est déjà hier, ça nous donne une belle idée pour finir le week-end.
À bientôt.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Justin Morin, Élise Dangean, Victor Delande, envoyé spéciaux à Rouen, Salomé Legrand, Henri de la Guérie et Laure d'Autriche à l'instant au cœur du parc du château de Versailles. Un grand merci aussi à Kevin Oustier, Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr demain à 13h. Vous retrouvez bien sûr les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.